Lorsque le prêtre Esdras ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Le scribe Esdras, donc celui qui sait lire et commenter la Bible, tout le peuple se mit debout. Et il pleurait. C'était il y a environ 2500 ans, 25 siècles, après des années d'oppression, le temple de Jérusalem, le temple de Salomon magnifique avec ses cèdres du Liban, le temple avait été détruit, ses magnifiques portes avaient été cassées, nous dit-on, à coups de masse et de hache. La vaisselle d'or, tout ce qui servait au culte, à la prière. Vous imaginez cette belle église de Castelginès, mais en plus grand, plus beau, plus riche. Tout cela avait été détruit, brûlé. Les élites du peuple, le roi, avaient eu les yeux crevés. Les élites du peuple, tous les nobles, les hommes, les femmes avaient été emmenés en exil à Babylone, dans l'Irak d'aujourd'hui, à Babylone. Et des années plus tard, après que l'empire de Babylone se soit fait envahir par un autre empire, l'empereur a donné l'autorisation de revenir à Jérusalem pour ses élites. Certains sont restés, mais plusieurs sont revenus, et de rebâtir le temple. Et dans ce temple, ils ont retrouvé dans les ruines, ils ont retrouvé la parole de Dieu, le livre de la Bible. C'est-à-dire exactement les mêmes livres que nous lisons dans nos églises. Et c'était il y a 2500 ans, mais c'est la même parole de Dieu qui n'a pas changé. Elle a été enrichie depuis, elle a été enrichie notamment des évangiles. Ça, c'est beaucoup plus récent, c'est 2000 ans seulement. Vous avez entendu Saint Luc qui nous dit qu'il s'est renseigné scrupuleusement pour savoir ce qui s'était passé dans la vie de Jésus, dans sa mort, dans sa résurrection, ce qui s'était passé pour ses apôtres, pour la Vierge Marie. Il a fait un travail de journaliste, d'historien, il a fait son enquête et ça nous donne ce magnifique évangile selon Saint Luc qui se prolonge dans les Actes des apôtres qui nous raconte le début de l'histoire de l'Église, et même à un moment dans ses actes, Saint Luc qui s'est renseigné, donc il dit à la troisième personne du singulier ou du pluriel, Pierre faisait ceci, il faisait cela, et à un moment, il passe du « il » au « nous », parce qu'il devient partie lui-même de cette histoire. Nous avons été là, nous avons été là. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, nous aussi, c'est-à-dire à écouter la parole de Dieu, comme le récit de nos ancêtres dans la foi, Abraham, le père des croyants, qui est revendiqué aussi bien par les juifs, par les chrétiens que par les musulmans, celui qui croit au Dieu unique et qui oublie les inventions des hommes qui ont inventé toutes sortes de dieux. Non, le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'homme. Et donc imaginez ce peuple de Dieu qui a été privé, qui d'ailleurs sa langue a changé. Sa langue a été mélangée avec la langue des envahisseurs. Ça a donné ce qu'on appelle l'araméen ou le chaldéen, la langue de, voilà, la langue que parlait Jésus au quotidien. Et donc, vous avez peut-être remarqué, on lit la Bible qui est en hébreu, l'Ancien Testament en hébreu, et des lévites, des scribes traduisent et donnent le sens. Et on continue là encore à faire cela. Parce que on nous lit la Bible qui a été traduite en français, mais même traduite, on a besoin d'en comprendre le sens. Et Jésus nous en donne le sens. Parce que si Dieu nous parle, comme je vous le disais au début de cette messe, à travers tous les moyens possibles, Dieu que le Saint Jean-Paul II appelait l'artiste divin, belle image, hein, qui a créé l'homme comme une merveille et qui a contemplé sa création comme un artiste, contemple son œuvre dans laquelle il se reflète. L'artiste accouche toujours un peu de son œuvre, c'est comme son enfant. Et donc, Dieu nous parle, comme je vous le disais, à travers la beauté de sa création. Quand hier soir, en allant célébrer la messe à CP, je me retournais un petit peu, parce que c'était un petit peu derrière, je voyais ces Pyrénées magnifiques avec le soleil qui se couchait sur les bois, là, sur la route. J'étais à vélo. Et donc, quand on est à vélo ou à pied, on a un peu plus de temps pour contempler la création. Mais vous voyez, les Pyrénées, le ciel immense, le soleil, ça nous donne une idée de la grandeur de Dieu, de la grandeur du Créateur, et l'homme qui est tout petit. Mais cet homme tout petit, si on regarde, vous voyez, ces vidéos avec des gens qui font des performances artistiques ou sportives ou je ne sais pas quoi, on est émerveillé. Technique, vous voyez. Comme le dit la Bible, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, Seigneur? Il est tout petit dans l'univers, il n'est rien. Et pourtant, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Donc à travers les œuvres des hommes, aussi Dieu nous parle, à travers notamment les œuvres des artistes. C'est vrai, les poésies, les chants, les films, les œuvres d'art, comme il y en a tellement dans cette belle église. Dieu nous parle, Dieu nous dit quelque chose, Dieu nous révèle quelque chose. Et beaucoup de gens, même incroyants, aiment venir, voyez, dans les églises pour méditer, pour trouver un moment de silence. Et Dieu nous parle aussi dans le silence. Mais Dieu nous parle aussi à travers la sagesse des hommes, à travers les romans aussi. Je me souviens d'un dominicain qui plus tard est devenu évêque de Pamiers, Monseigneur Albert-Marie de Mauléon. Quand il était dominicain, il s'occupait des séminaristes et des prêtres de la communauté de l'Emmanuel. Et il nous disait « Lisez des romans, ne vous contentez pas de lire des livres très sérieux de théologie, de Bible et tout ça. Lisez des romans parce que vous apprendrez l'homme à travers les romans. » Les artistes nous révèlent, les écrivains nous révèlent quelque chose de l'homme dans leur art. Et par exemple, dans les romans, dans les pièces de théâtre, voyez, dans les films. Mais voilà, tous ces messages magnifiques qui nous parlent sont parfois pollués, parce qu'il peut y avoir des personnes qui vous disent des mensonges et qui le savent. Et tout pouvoir, à un moment ou à un autre, ment pour garder un certain ordre, vous voyez. C'est le cas de Ponce Pilate. Ponce Pilate, lui, il ne ment pas dans ses paroles quand il dit que Jésus est innocent, mais il ment dans ses actes puisqu'il condamne un innocent. Et puis, les commerçants, on est dans un monde où on nous vend toutes sortes de choses et c'est extraordinaire. Et d'un seul clic sur votre écran, un jour, deux jours, une semaine après, vous recevez ce que vous avez choisi. Les commerçants, bien certains, vous vendent du rêve. Et ce que vous recevez, ce n'est pas ce que vous aviez prévu. C'est pourquoi chez les Grecs et chez les Romains, Mercure était à la fois le dieu des commerçants et des voleurs. C'est le même dieu, le dieu des marchands et des voleurs. Donc il faut se méfier de ceux qui vous mentent pour vous vendre leur soupe. Et puis il y a aussi des gens qui très sincèrement vont vous, dans les interviews, vous voyez, vont vous dire des choses qui vous paraissent très sages, et ils sont sincères et ils y croient, mais qui sont truffés d'erreurs. Parce qu'ils n'ont qu'un petit aperçu de la réalité, ou alors ils transposent la réalité et à partir de leur petite réalité, ils font une généralité, voyez, comme si tout le monde était victime de l'oppression, si tout le monde était, toute femme était victime des hommes, voyez, ce qui est vrai, beaucoup de femmes sont victimes des hommes, oui, il y a lutté, mais ce n'est pas toutes les femmes et tous les hommes ne sont pas des oppresseurs, voyez, généraliser fait que parfois, on va passer d'une expérience sincère à une généralité qui est fausse, qui est tout simplement fausse. Et on va mentir sur l'origine de la vie, sur la relation de l'homme et de la femme, sur les handicapés, sur le, voyez, sur la place des uns et des autres, sur la fin de la vie. Donc, comme ce monde est fait de messages parfois contradictoires et de messages parfois mensongers ou erronés, nous avons besoin d'une valeur sûre, et cette valeur sûre, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus ouvre la Bible. On apprend dans cet évangile d'aujourd'hui que Jésus est pratiquant. Ça, c'est intéressant. Si vous êtes pratiquant et qu'on vous demande pourquoi vous êtes pratiquant, répondez tout simplement parce que Jésus était pratiquant. Et je l'imite. C'est quand même pas mal d'imiter Jésus. On nous dit comme il en avait l'habitude le jour du sabbat, donc le samedi, Jésus allait à la synagogue et il lisait la Bible. Il lit la Bible, il tombe sur le livre d'Isaïe, le plus long livre de la Bible, dont on a donc, que l'on lit encore ici dans nos églises. Il ouvrit le livre et il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est un autre mot pour dire la Bible, pour dire la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, vous voyez, elle n'est pas uniquement pour les gens intelligents, les gens qui comprennent. Hier, j'étais avec des collégiens, ils ont droit à la parole de Dieu. Vendredi soir, j'étais avec des lycéens, ici même, à Castelginest, qui se préparent à la confirmation. Ils ont droit à la parole de Dieu. Dans une vie antérieure, j'allais tous les vendredis faire l'éveil à la foi des enfants de moyenne section et grande section, entre 4 et 6 ans. Ils ont droit à la parole de Dieu, adaptée, bien sûr, traduite dans leur langage, avec des images, avec des histoires, mais vraies, pas de mensonges. Ils ont droit à la parole de Dieu, ils ont droit à la vérité. Et c'est ça la bonne nouvelle aux pauvres et les prostituées que nous allons voir et les personnes que nous hébergeons, que le Père Proto accompagne à travers le Secours catholique et les étudiants et ainsi de suite, et les personnes âgées et les malades. Ils ont tous droit à la parole de Dieu. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres parce que dans cette bonne nouvelle, il y a une libération, annoncer aux captifs la libération. Il y a une ouverture des yeux et aux aveugles qui retrouveront la vue. Nous avons tous plein de questions. Combien d'hommes et de femmes ont vu leur vie changer? Parce que c'est pas parce que les choses ont changé autour d'eux, parce que le regard sur les choses a changé. Aux aveugles qui retrouveront la vie, la vue. Et souvent on veut changer les choses. Il faut du temps parfois pour changer les choses. On travaille maintenant pour des choses qui changeront peut-être dans 10 ans, 20 ans ou même après notre mort. Mais on y travaille, on laboure, on sème, hein, comme en hiver, en automne. On sème, on travaille la terre et puis on verra les bourgeons et les semailles seulement en août, en septembre prochain. Et c'est ça que fait aussi la parole de Dieu. Et voilà. Et je vous souhaite, j'espère que d'ailleurs vous l'avez déjà vécu, avoir découvert, avoir eu les yeux ouverts par telle ou telle parole de la Bible. Qui nous parle de quoi? De cet amour de Dieu nous venons? De ce Père qui, avec son Fils et le Saint-Esprit, a créé un monde si divers, comme on l'a entendu dans la deuxième lecture, à l'image d'un corps. Un seul monde, un seul univers créé par un seul Dieu, mais avec tellement de membres différents et tellement de qualités, tellement de couleurs, un magnifique bouquet de fleurs. Donc la vue qui change et qui du coup, si mon regard change sur la réalité, moi-même je vais être mieux adapté et être mieux capable de la changer, cette réalité, s'il y a besoin de la changer, parce que parfois il y a des choses, il y a des urgences. On appelle ça des conversions. En hébreu, je crois que ça s'appelle la teshuvah, la conversion, remettre en liberté les opprimés. Combien de personnes opprimées, vous voyez, il y a des oppressions intérieures. La culpabilité, c'est une oppression. La rancune, c'est une oppression. Vous voyez, la rancune, l'esprit de vengeance, c'est être doublement victime. J'ai déjà été victime parce que quelqu'un m'a fait du mal, et en entretenant une rancune parfois plus ou moins consciente, c'est comme si je restais accroché au cheval fou là, qui me tirait et dont j'étais tombé. Vous voyez, je me maintenais victime. Et la parole de Dieu vient couper le lien par le pardon. Jésus est venu nous donner le pardon sur la croix. Pardonne-leur, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable, une année de grâce. Pour les couples qui vont se marier cette année, ça va être une année de grâce. Qui va être inscrite en vous et ensuite dans vos enfants et dans vos petits-enfants. Une année de grâce, comme on l'a fait ce matin en évoquant la grâce de la première rencontre, la grâce de tel ou tel événement de votre vie amoureuse, de votre vie de couple, et pour ceux qui sont mariés, depuis 35 ans, 28 ans, là, les accompagnateurs de la préparation au mariage, qui évoquent ce jour de grâce, annoncer une année favorable, parce que tout simplement, quand le Seigneur annonce quelque chose, ce n'est pas des promesses électorales. On le sait, il y a une espèce de jeu, c'est une pièce de théâtre. Dans la campagne électorale, on annonce des tas de choses et on sait qu'une partie ne sera pas tenue. On espère qu'une partie sera tenue, hein. Heureusement. On espère, mais bon, il y a quand même un jeu. On fait des promesses et puis après on vous explique qu'on n'a pas pu les tenir parce que ça... Les événements ont changé, mais ça c'est un jeu, c'est un théâtre. Tandis que quand le Seigneur annonce quelque chose, c'est vrai, ça se passe. C'est pourquoi que la Bible a une valeur au-dessus de tout ce que je vous ai dit avant, de tous ces moyens par lesquels Dieu et l'homme nous disent des vérités qui font du bien et dont on a besoin. La vérité sur notre origine et sur notre fin, c'est-à-dire le ciel, le paradis, la réconciliation entre nous, le pardon, la guérison, la consolation, tout cela s'est annoncé dans la Bible et ça viendra. Et parfois, eh bien, je vais terminer avec ça, parfois, on peut dire avec Jésus, c'est la fin de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus referma le livre, il le rendit au servant, il s'assit. S'asseoir, c'est l'attitude du chef, de l'enseignant. Et c'est pourquoi, dimanche prochain, notre nouvel archevêque sera installé sur son siège épiscopal, ce qu'on appelle la cathèdre, qui a donné, siège en grec, qui a donné le mot cathédrale, c'est-à-dire le maître qui s'assoit. Les serviteurs sont debout. On s'est mis debout pour écouter l'évangile. On se remettra debout pour proclamer la foi et pour dire la prière universelle, c'est l'attitude du service. Nous sommes au service de Dieu et au service de son humanité, spécialement des plus pauvres. Mais le maître, il s'assoit, Jésus s'assoit, tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Et je peux vous le dire, assurément, dans cette synagogue, ces Juifs qui attendaient le Messie, ils ont compris qu'il était arrivé, que ce qu'ils attendaient de génération en génération, depuis des siècles, le Sauveur, Jésus venait de l'annoncer. Certains ont compris que c'était lui, d'autres ont compris qu'il n'était pas loin, ils ne savaient pas si c'était lui. Aujourd'hui s'accomplit ce passage, c'est-à-dire l'année de grâce arrive. Et bien concrètement, on va prendre un petit temps de silence avant de dire le credo, on peut peut-être, les uns et les autres, se demander si telle ou telle parole de Dieu, au catéchisme, voilà, à différents endroits, dans nos Bibles, dans nos livres de prière, si telle ou telle parole de Dieu s'est ancrée en nous, vous savez, ça peut être des paroles anciennes, mais s'est ancrée en nous, quelle parole de Dieu m'a vraiment nourri, et peut-être aussi, quelle parole de Dieu s'est un jour actualisée, accomplie en moi. Parole de vie, de pardon, de guérison, de réconciliation, d'émerveillement, d'adoration. Amen.